Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1964, L'homme et ses symboles est l'ouvrage de vulgarisation le plus célèbre associé à Carl Gustav Jung. Conçu peu avant sa mort et achevé avec la participation de proches collaborateurs, il s'adresse explicitement à des lecteurs non spécialistes. Jung y expose les principes essentiels de la psychologie analytique à partir d'un problème central, comment les images des rêves, des mythes, des religions et de l'art donnent-elles forme à ce qui demeure largement inconscient. Le livre ne propose pas un dictionnaire fournissant une signification fixe à chaque image onirique. Il présente plutôt les symboles comme des médiateurs entre l'expérience consciente et des dimensions psychiques qui ne peuvent être totalement réduites à des définitions rationnelles. Son propos associe théorie, commentaires d'images et réflexions sur la vie moderne. Les chapitres rédigés à Jung et ses collaborateurs étendent cette perspective au mythe, au processus d'individuation, aux arts visuels et à l'étude de cas. L'ensemble offre ainsi une porte d'entrée structurée dans la pensée jungienne tout en demandant une lecture attentive et critique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le symbole comme image vivante plutôt que comme code à déchiffrer, la distinction entre symbole, signe et allégorie commande l'ensemble de l'ouvrage. Un signe renvoie conventionnellement à une information connue, il vise l'efficacité et une compréhension relativement univoque. Une allégorie peut également traduire une idée identifiable par une image, pour Jung. Le symbole a une fonction différente, il exprime au moyen d'une forme perceptible. Image de rêve, récit mythique, œuvre d'art ou rituel, une réalité psychique qui n'est pas encore entièrement connue par la conscience. Il possède donc une part intelligible, mais aussi un excédent de sens qui résiste à l'explication définitive. Cette thèse explique pourquoi le livre récuse les interprétations mécaniques du type « telle image signifie toujours telle chose », une figure animale. Une maison ou un voyage peut évoquer des motifs largement partagés, mais son sens dépend aussi du rêveur, de son contexte affectif et de la place de l'image dans le rêve entier. Cette conception rend l'interprétation plus exigeante, il ne s'agit ni de projeter librement n'importe quel sens, ni d'appliquer un lexique automatique. Il faut maintenir un dialogue entre les associations personnelles et les formes symboliques collectives. Le symbole est dit vivant tant qu'il contribue à faire émerger une compréhension nouvelle de l'expérience intérieure. Deuxièmement, les rêves comme régulation et communication de la vie inconsciente, l'homme et ses symboles accordent aux rêves une fonction psychologique centrale. Jung les considère comme des productions spontanées de la psyché et non comme de simples résidus absurdes de l'activité diurne. Le rêve mettrait en scène, sous une forme imagée, des tensions, des dispositions affectives ou des possibilités que l'attitude consciente néglige. Cette approche ne suppose pas que le rêve délivre une injonction littérale ni qu'il prédise l'avenir. Sa valeur est plutôt compensatrice et exploratoire, il peut contrebalancer une vision trop étroite de soi, faire apparaître un conflit, ou présenter une situation intérieure sous un angle inattendu. Le livre insiste ainsi sur la nécessité de partir du récit précis du rêve et des associations du rêveur. Les symboles ne sont pas séparables de la personne qui les rencontre. En même temps, certaines images semblent reprendre des configurations très anciennes, observables dans les récits mythologiques et religieux. C'est cette articulation entre singularité biographique et résonance collective qui caractérise l'approche jungienne. Pour le lecteur, l'intérêt pratique consiste moins à obtenir une bonne réponse qu'à développer une attention aux images récurrentes, aux émotions qu'elles suscitent et aux déséquilibres qu'elles peuvent révéler dans la vie consciente. Troisièmement, archétypes et mythes reliés l'expérience individuelle aux formes collectives, le livre rend accessible l'idée jungienne d'archétype, souvent simplifié à tort comme un catalogue de personnages universels. Chez Jung, l'archétype désigne plus fondamentalement une disposition ou une forme organisatrice de l'imaginaire collectif qui se manifeste par des images variables selon les époques, les cultures et les individus. Les mythes, contes, rites et rêves ne se répètent donc pas à l'identique. Ils présentent des analogies de structure. Les collaborateurs de Jung examinent notamment la persistance de motifs primitifs dans l'homme moderne afin de montrer que la rationalisation technique n'abolit pas le besoin de représentation symbolique. Cette perspective donne aux mythes une portée psychologique, sans obliger à les lire comme des comptes rendus historiques ou comme des doctrines auxquelles il faudrait adhérer. Ils peuvent figurer des conflits, des transformations et des passages humains fondamentaux. L'intérêt de cette démarche est de replacer l'expérience personnelle dans un horizon culturel plus large. Certaines angoisses ou aspirations ne relèvent pas uniquement d'un défaut individuel, mais empreinte des formes héritées et partagées. Sa limite doit néanmoins être gardée en vue, les rapprochements entre cultures ne justifient pas l'effacement de leurs différences historiques. Le livre est surtout fécond, lorsqu'il invite à comparer les images avec prudence, plutôt qu'à déclarer une équivalence universelle immédiate. Quatrièmement, l'individuation intégrer les contradictions plutôt que fabriquer un moi idéal, l'individuation constitue l'horizon du travail psychique présenté dans l'ouvrage. Le terme ne signifie pas devenir isolé, exceptionnel ou parfaitement autonome. Il désigne un processus par lequel une personne différencie davantage ce qu'elle est de ses rôles sociaux, de ses identifications collectives et de ses images idéalisées, tout en intégrant des éléments jusque-là tenus à l'écart de la conscience. Dans le vocabulaire jungien, ce mouvement implique notamment de reconnaître l'ombre, c'est-à-dire les traits, affects ou potentialités que le moi refuse volontiers de voir en lui-même. L'objectif n'est pas de les approuver sans discernement, mais de les connaître afin qu'ils n'agissent pas exclusivement de manière indirecte ou projetée sur autrui. Le livre associe cette progression à la rencontre répétée de symboles dans les rêves, les récits et les productions culturelles. Ceci offre une forme au conflit et facilite une relation moins défensive avec l'inconnu intérieur. L'individuation ne se confond donc pas avec une méthode rapide d'amélioration personnelle, elle implique une confrontation durable avec l'ambivalence et les limites du moi. Conscient, cette nuance distingue l'approche de Jung d'une psychologie de l'optimisation. Elle valorise l'unification relative de la personnalité, non l'élimination des tensions qui composent toute existence psychique. En dernier lieu, les illustrations et l'art moderne comme terrain d'observation du symbolique. L'une des singularités éditoriales de l'homme et ses symboles réside dans l'importance accordée aux images. Les nombreuses illustrations ne constituent pas un simple accompagnement décoratif, elles participent à la démonstration selon laquelle la pensée symbolique traverse les rêves, les objets rituels, les mythes et les arts modernes, en confrontant des productions issues de contextes variés. Le livre cherche à entraîner le regard du lecteur à reconnaître des analogies de forme et de thème sans réduire les œuvres à une seule explication psychologique. L'art moderne reçoit une attention particulière parce qu'il peut donner à voir des ruptures de forme, des figures énigmatiques ou des contenus émotionnels difficiles à formuler autrement. Dans cette perspective, l'œuvre ne vaut pas comme diagnostic clinique de son créateur. Elle peut aussi devenir un lieu où des tensions collectives prennent une expression sensible. Le dispositif visuel rend concrète une difficulté de la théorie jungienne, les contenus inconscients ne se présentent pas d'abord comme des concepts clairs, mais comme des images à examiner. Il comporte cependant un risque de surinterprétation, car toute ressemblance visuelle n'établit pas à elle seule une identité de sens. La lecture la plus solide consiste à utiliser les images comme des invitations à contextualiser, comparer et questionner, plutôt que comme des preuves définitives d'un symbolisme universel. En conclusion, L'homme et ses symboles conviendra d'abord au lecteur, qui souhaite comprendre les notions majeures de Jung sans commencer par ses textes les plus techniques rêves, inconscients. Archétypes, symboles et individuation y sont présentés dans une langue destinée au grand public. Il intéressera également les personnes curieuses de mythologie, d'histoire des religions, d'art visuel ou de l'usage psychologique des récits traditionnels. Son bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à considérer une image non comme une énigme appelant une solution unique, mais comme un objet d'interprétation situé, à la fois personnel et culturel. Pour un lecteur tenant un journal de rêve, l'ouvrage peut encourager une observation plus rigoureuse des émotions, des associations et des répétitions, sans promettre une méthode infaillible d'auto-analyse. Ce livre se distingue des manuels généralistes sur les rêves par son ampleur culturelle et par son format visuel, les illustrations prolongent réellement l'argumentation sur la fonction des images. Il se distingue aussi de nombreux résumés de Jung par sa composition collective, qui montre plusieurs applications de la psychologie analytique, tout en conservant le chapitre introductif de Jung comme point d'ancrage. Il faut néanmoins le lire avec discernement. Les propositions sur l'inconscient collectif et les archétypes relèvent d'un cadre théorique influent, mais discuté, et ne doivent pas être confondues avec des résultats expérimentaux établis. Cette réserve n'enlève pas sa valeur, l'ouvrage demeure une introduction remarquable pour saisir la cohérence, la richesse imagée et les ambitions interprétatives de la pensée jungienne. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.